Cantine en Sciences, Stéphane Delisgorges.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours à 14h, de la série Culture Science, aujourd'hui bien sûr, Continent Science, toujours en direct, de la Maison Ronde, du studio numéro 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre regard et nos considérations vont être lointaines, quelques 500 millions de kilomètres de notre planète. Pour regarder, eh bien quoi, vous vous en doutez, ça a déjà été annoncé ce matin dans Culture Matin, Rosetta, et que Rosetta toute la semaine, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, tout le monde, dans les rendez-vous de Continent Science, sera exactement à 500 millions de kilomètres de la Terre. Aujourd'hui, en tout cas, pour cette ouverture, je suis en compagnie de Francis Roca. Il est responsable du programme Rosetta. Il est astrophysicien. En règle plus globale et générale, il est responsable des programmes d'exploration du système solaire du CNES. Et je suis en compagnie de Michel Vizeau, qui est lui responsable de l'exobiologie au CNES, toujours. L'exobiologie, c'est-à-dire ce qui appartient, ce qui peut amener, ce qui peut construire la vie, je suppose, on va définir tout ça, voilà. Mais pour respecter de manière très très tertienne, allez, on va le dire, nos habitudes, la chronique animalière tout de suite. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les rats. Les rats, car les rats dépendent fortement de leur moustache pour avoir des informations sur le monde qui les entoure, puisqu'ils ne dépendent de leurs yeux. En utilisant ces minuscules muscles qui sont autour des follicules des moustaches, les rats balayent leurs moustaches d'avant en arrière constamment, environ 7 fois par seconde. Ce taux de mouvement des moustaches dépend de ce que fait le rat. Les rats bougent leurs moustaches en balayant plus largement et plus lentement lorsqu'ils explorent, entre 4 et 6 balayages par seconde, et en balayant moins largement et plus rapidement lorsqu'ils sont tranquillement arrêtés, posés, entre 6 à 10 balayages par seconde. Les rats peuvent même bouger leurs moustaches indépendamment, bougeant leurs moustaches d'un même côté de la tête, dans des directions opposées lors d'un balayage. Ils peuvent bouger leur moustache asymétriquement selon le type et la rapidité du mouvement de la tête pour assurer, encore une fois, une distance de balayage vers l'avant. Ils peuvent aussi étendre leur moustache jusqu'à 5 cm devant leur museau. Les rats balayent les surfaces et les objets de leur moustache, frôlant parfois le même objet plusieurs fois à différents endroits lorsqu'ils passent, ce qui leur permet de glaner une image à 3 dimensions de leur environnement. Leurs moustaches sont évidemment extrêmement sensibles, encore plus que les extrémités d'un doigt humain. Les moustaches des rats résonnent aussi à différentes fréquences, comme peut le faire la corde d'une harpe. Les fréquences de sons faibles dans l'air et des textures à grains du sol peuvent faire vibrer les moustaches longues, alors que les basses fréquences et les textures fines font vibrer cette fois les petites moustaches. Les rats utilisent leurs moustaches pour naviguer dans le monde, s'orienter et s'équilibrer. Les moustaches aident le rat à trouver et différencier la nourriture, courtiser un ou une camarade, déterminer s'il peut passer dans une ouverture ou non. À de courtes distances, les rats se fient plus à leurs moustaches qu'à leur vision pour percevoir la profondeur. Les moustaches peuvent détecter le vent et les légères brises, ce qui aide le rat à s'orienter sous terre. Les moustaches sont utilisées pour nager, surtout dans les eaux turbulentes. Les moustaches aident le rat à sentir quand son museau est au-dessus de la surface. Sans moustache, le rat se noierait. Les moustaches sont aussi utilisées socialement lors des museaux à museaux et des combats avec les autres rats. Le rat défenseur essaye d'avoir un contact moustache à moustache avec le rat agresseur. Les moustaches interfèrent avec une attaque à la tête. Aussi longtemps qu'un contact moustache à moustache est maintenu, le rat dominant peut contourner les moustaches pour délivrer une morsure fatale. Cependant, et j'arrive à la fin, de l'affaire des moustaches, si les blocs de moustaches d'un rat sont anesthésiés, ce rat boxe moins et se fige plus et a plus de risques d'être mordu. Bref, un rat sans moustache peut être plus handicapé qu'un aveugle rat. Bref, encore, le rat est donc un franc moustachu. Bonjour Francis Rocard.
Bonjour.
Bonjour Michel Vizeau.
Bonjour.
Dans une autre vie, vous avez été vétérinaire.
Oui, effectivement, j'ai commencé par travailler comme par des études de vétérinaire et ensuite cela m'a conduit dans des chemins divers.
Voilà, mais là vous confirmez en tout cas même ce que vous avez pu observer des rats et de leurs moustaches.
Ah, tous les animaux à vibris, d'une façon générale,
oui, sûr,
ont ce genre de comportement avec des spécificités particulières pour chaque espèce. Mais effectivement, des animaux domestiques, notamment les chats sans moustaches, sont extrêmement handicapés.
Oui. Et ils peuvent se noyer aussi de la même façon d'ailleurs et le reste. Bref, nous ne sommes pas là pour parler des rats et de leurs moustaches agitées, nous sommes là pour parler de toute autre chose, mais c'est une forme de canard, tiens, voilà, puisque nous allons parler. Alors, à la demande express de Michel Vizeau, qui veut que je dise, et après j'arrêterai, le nom exact de la comète choisie, il s'agit de la comète Churyumov, voilà que j'ai boloté, je reprends, Churyumov-Gerasimenko. Deux Ukrainiens dont le deuxième nom, Gerasimenko, est une femme.
Tout à fait, c'était la...
Vous la connaissez bien.
Je ne connais pas très bien Madame Gerasimenko, mais c'était la patronne de Klim Churyumov, qui était un astronome qui regardait des photos pour chercher une autre comète et qui ont fait cette découverte, la découverte de cette comète il y a une trentaine d'années maintenant.
69.
Donc encore plus de 40 ans. Et il ne s'attendait pas sûrement à une telle... C'était une comète rare et importante sur le plan scientifique, Francis pourra sûrement le confirmer,
oui.
Mais il ne s'attendait pas à un tel succès dû au changement de destination de la mission Rosetta. Voilà. Et M. Churyumov est toujours actif et j'ai eu le plaisir de le rencontrer au COSPAR à Moscou. Il a eu un grand succès avec de nombreux thésards qui vont maintenant travailler sur cette comète.
Bon, je suppose qu'il est dans une expectative tendue et une attention sur la chose. Francis Rocard, pourquoi d'abord il y a, vous allez me dire si le chiffre est bon, quelques 3800 comètes qui ont été repérées, dont la comète de Halley, je dis ça par hasard. Mais...
Qui porte le numéro 1?
Oui.
La comète de Halley.
Oui,
il y a moins de 4000 comètes qui ont été recensées dans l'histoire. Donc, y compris les comètes chinoises, moins de 1000 ans avant Jésus-Christ, dans les écrits anciens. C'est peu. C'est peu par rapport au nombre d'astéroïdes qu'on a aujourd'hui dans nos catalogues. On est à 650 000 astéroïdes.
Oui.
Donc, les comètes vivent très très loin du Soleil, on ne les voit pas. Et ce n'est que quand elles viennent nous voir qu'on peut les distinguer sur les plaques photographiques, comme l'a fait Churyumov et Gerasimenko, et parce qu'elles se retrouvent entourées d'un halo, ce qu'on appelle une coma, et puis quand ça se rapproche encore plus, le halo devient une queue, et ça devient très beau, et ça peut être un superbe spectacle pour tout un chacun sur Terre.
Et parfois double, d'ailleurs, cette queue.
Absolument. Il y a la queue de poussière qui est une queue plutôt courbe et qui est réfléchie par le soleil. Il y a une queue d'ion, d'atome ionisé, très tendue, très droite et qui, elle, est lumineuse en plus.
Oui, et plus matérielle, elle est plus de poussière ou elle part de son origine.
Non, les ions sont... C'est deux mécanismes différents.
Oui, d'accord.
Donc, dans la coma, vous avez un mélange de gaz neutre et de poussière.
D'accord. Alors que d'autres
la pression de radiation vous pousse les poussières lentement, ça vous fait la queue de poussière, et l'ionisation des molécules les entraîne dans le vent solaire, et ça vous fait la queue d'ion. Voilà.
Alors, évidemment, la question parmi les quelques, donc 3800, pourquoi le choix international?
Pourquoi Churyumov? Alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est d'abord Rosetta est une mission qui nous occupe depuis 20 ans.
Oui.
En gros, même plus que ça, en 86, on survole la comète de Halley, on est tous ravis, on fait des découvertes extraordinaires. Et évidemment, les planétologues se disent, maintenant, il faut passer à une étape plus ambitieuse. D'ailleurs, dès le départ, l'idée, c'était retour d'échantillons cométaires. Ça a été la grande idée, c'était européano-américain, on est dans les années 87-88, juste après. Et très vite, les Américains nous lâchent, comme ça arrive dans la coopération, et l'Europe se dit non, c'est trop ambitieux, donc on va faire un rendez-vous et on va se poser sur la comète. Et voilà, c'est comme ça que Rosetta est née, et Rosetta est née dans les années 90-92, et c'est rentré dans le programme de l'Agence spatiale européenne. Et au début, on était sur une comète au nom imprononçable, Vachmann-Vachmann 3.
Oula, oui, d'accord.
C'était la première comète. Tout le monde l'a oubliée. Et elle s'est cassée en 95.
Ah.
Donc, vous voyez, on n'est même pas en train de démarrer à fabriquer la sonde que, boum, elle se brise. Il y a des images superbes qu'on peut voir sur le net. Elle s'est brisée en multiples morceaux. Donc, il a fallu passer sur Virtanen. Alors, comment on choisit ces comètes? D'abord, on veut faire un rendez-vous. Vous vous souvenez peut-être que la comète de Halley est une comète rétrograde, c'est-à-dire qu'elle va dans l'autre sens que tout le monde, les planètes, tout le monde va dans le même sens. Hein. On tourne à plat dans un plan et dans le même sens.
Oui.
Là, la comète de Halley, elle tournait dans l'autre sens. Donc
dans
on a eu un survol très rapide,
oui.
70 km par seconde, en 12 heures c'était fini. Là, on veut faire un rendez-vous et sortir du plan de ce qu'on appelle l'écliptique, c'est-à-dire le plan de la planète Terre, de son orbite, c'est très lourd en termes d'énergie. Donc on a cherché des planètes dans le plan. Ça veut dire que ce sont des comètes, pardon, dans le
oui.
plan. Et ça veut dire que ce sont des comètes, on pourra en reparler, il y a deux réservoirs de comètes, mais on en parlera plus tard. Et on choisit une comète qui est peu inclinée, qui est ce qu'on appelle une comète de la famille de Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter est le grand fouteur de bordel du système solaire. C'est lui qui perturbe tout, qui a perturbé tout.
C'est pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des...
Ah non, c'est essentiellement Jupiter.
Oui.
80% des perturbations, c'est Jupiter, le reste, c'est un peu Saturne.
Oui, c'est ça. Il y en
Saturne,
a un peu pour Saturne, oui.
Mais le grand perturbateur, c'est Jupiter.
Mais c'est un grand, le Jupiter
voilà.
en question.
À lui tout seul, représente 99% de la masse de toutes les planètes.
Et oui.
Donc, vous avez des tas de comètes qui ont des orbites qui passent par Jupiter, ce qu'on appelle les comètes, et dont font partie Virtanen, Vachmann-Vachmann 3 et Churyumov. Et dernier point, on a voulu une comète qui soit moyenne, c'est-à-dire pas trop active, ça pourrait être dangereux, mais suffisamment active pour être intéressante. Donc on en a trouvé quelques-unes, et notamment Philippe Lamy à Marseille a proposé Churyumov avec d'autres, et voilà, c'était le bon choix.
Oui. Et une première considération que vous m'avez répétée, qui chaque fois m'étonne, hein, que vous avez précisé dans une conversation qu'on a eue au préalable de cette émission... Vous m'avez dit c'est des objets fragiles, ils peuvent être creux. C'est des. Moi, je m'imaginais au contraire que c'était comme des astéroïdes, c'est-à-dire quelque chose de très compact, d'une matière très agrégée, très dense.
Non, c'est fragile. C'est fragile pour des tas de raisons. Enfin, au moins deux ou trois raisons. L'une, c'est que ces objets sont tout petits.
Oui.
Tout petits, ça veut dire 1, 10, il y a une comète qui fait 100 km. Une.
Oui.
Mais sinon, c'est 1 à 10 km.
Oui. Celle-ci fait 30 ?
Non, elle fait 4.
4, pardon, oui.
Elle fait 4 km à peu près, les patatoïdales. Halley faisait 10, 12, bon, même 15, je crois. Halley est une grosse comète. Virtanen faisait 1 km. Et d'ailleurs, pour Philae, on voulait se poser sur une toute petite comète, très légère. Et là, on se retrouve après.
Philae,
on a un petit souci pour l'atterrissage de ce point de vue-là.
Oui.
Et en plus, donc, il n'y a jamais de pression, il n'y a jamais de température. Donc, le matériau n'est pas dense. Vous imaginez bien. Et en plus, il perd du matériel. La comète perd beaucoup de matériel. Donc c'est poreux. Il y a plein de trous. Et s'il y a des trous, bah, c'est fragile. Donc à la fin, on a un matériau qui est extrêmement fragile et les comètes se cassent. On pourrait faire la liste de toutes les comètes brisées dans l'histoire. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vachmann-Vachmann 3 s'est brisé. Mais il y en a Schumacher-Levy 9, souvenez-vous, celle qui était en orbite autour de Jupiter,
oui.
21 morceaux
oui.
qui ont bombardé
Schumacher,
Jupiter
Lévy,
après.
Oui.
Voilà. Donc c'est extrêmement fragile et on bon, on y reviendra, mais peut-être que d'ici dans un an, 10 ans ou un siècle, Churyumov va se briser en deux. C'est ce qui est en train de se passer.
Est-ce qu'elle n'est pas l'accrétion de deux? Parce qu'on a parlé de
non.
deux.
Non. Enfin, non.
Avec sa tête de canard, hein, son proboscis.
Bon, on verra. La mission ne fait que démarrer. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que quelles sont les parties les plus intenses en termes d'activité? C'est le cou. C'est la zone de jointure des deux blocs.
Oui.
C'est pile là que ça s'active. Ça veut dire que c'est là que le gaz s'échappe le plus abondamment. C'est là qu'il est de plus en plus poreux. C'est là que c'est le plus fragile. C'est là que ça risque de se casser.
Oui.
Donc on observe plutôt à la brisure d'une comète. Sachant que tout le matériel qui est parti est peut-être le résultat d'une explosion. C'est une cocotte minute d'une comète. Vous avez des poches de gaz, de glace qui passent en phase gazeuse. S'il n'y a pas de fuite, la pression monte, ça fait péter la comète. Ça, on a vu des comètes qui ont eu des éruptions. On a des pics d'intensité dans les comètes totalement non prévisibles. D'ailleurs, Churyumov a une augmentation de 65% d'activité en mai 2014. Donc on commençait tout juste à la voir et hop, elle a eu une activité et puis elle s'est calmée. Donc il y a des bouffées d'activité plus ou moins violentes. Et voilà, donc c'est plutôt la rupture d'une comète que le collage de deux morceaux.
Bien.
Elle reçoit aussi des chocs, hein, ces comètes pendant le... Il y a des cratères dessus, hein, sur la surface.
Le mot cratère n'est pas certain. On voit des ronds. Est-ce que c'est des cratères d'explosion internes, des boules qui ont explosé, ou est-ce que c'est des impacts? Aujourd'hui, je n'ai pas entendu quelqu'un vraiment parler de cratère.
Bien.
Au sens impact, on verra.
Suite donc de ce rendez-vous entièrement consacré, mais toute la semaine, bis repetita concernant Rosetta, toujours en compagnie de Francis Rocard et de Michel Vizeau. Petite question, je vous adresse, vous l'exobiologiste. Quels sont vos intérêts? On va y revenir dans plus de détails, mais pour donner une première idée, quels sont vos intérêts, vous, en tant qu'exobiologiste astrophysicien? Et dans ce choix même, est-ce qu'il y a une raison?
Alors, le choix des exobiologistes n'ont pas joué dans le choix de la comète particulièrement, parce que c'est quand même extrêmement inconnu. Et vu de loin pour l'instant, vu le peu d'informations qu'on a d'une façon générale sur les comètes, avoir des informations in situ, sur place, de n'importe quelle comète, c'est déjà un énorme pas en avant.
Ouais.
Un énorme pas en avant dans la connaissance de ce qui, avec d'autres choses, a pu arriver sur Terre à un moment donné et a pu apporter sur Terre, d'une part, de l'eau, et d'autre part, ce qu'on appelle de la matière organique, pour simplifier, un mélange d'éléments simples, que sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, et puis plein d'autres choses encore. Donc c'est ça qui est intéressant, et de voir qu'est-ce qui est arrivé, quel est le matériau primitif qui est là. Deuxièmement, les comètes sont à l'origine des poussières interplanétaires, et des poussières interplanétaires, la Terre en collecte entre 20 000 et 40 000 tonnes par an, ce qui est quand même pas rien. Et donc ces poussières sous forme d'étoiles filantes, et cette matière planétaire, cette matière de poussière, est à la fois riche en eau et riche aussi en matière organique. Et donc tout ça, ça nous donne une idée de ce qui a pu être constitutif de ce qui se passe, de ce qui est arrivé à la surface de la Terre il y a, depuis 4 milliards d'années, ça continue tout le temps.
On y reviendra bien évidemment parce que c'est quand même l'une des trois grandes énigmes qui pèsent et où peut-être que certaines réponses viendront. Francis Rocard, tout à l'heure vous avez dit on deviendra peut-être plus tard. Allez, les grandes réserves de comètes voire d'astéroïdes, c'est le nuage de Oort. C'est bien ça, la ceinture de Kuiper.
Voilà.
Grosso modo. Donc, rassemblement là.
Le nuage de Oort, c'est Oort qui a observé les comètes non périodiques. Il en a déterminé qu'elles étaient paraboliques. Alors là, c'est un peu technique. Ça veut dire que la vitesse à l'infini est nulle. Ça veut dire que la comète appartient au système solaire. C'est ça, sa découverte majeure. Elles ne viennent pas d'ailleurs. Elles ne viennent pas du milieu interstellaire des autres étoiles. Ça vient, c'est chez nous. Donc, il a eu cette idée. Donc, il doit y avoir les lois de Kepler disant que plus vous êtes loin du Soleil, plus vous êtes lent. Il doit y avoir un nuage de comètes en permanence, de milliards et de milliards de comètes qu'on ne voit pas, qu'on ne verra probablement jamais parce que c'est tout petit.
Oui.
Mais il y en a une qui nous tombe dessus régulièrement. Voilà. Et les périodes ont 1 million d'années.
Oui.
Siding Spring qui a survolé Mars récemment, 1 million d'années.
Oui. C'est incroyable, minuscule et avec des périodes extrêmement... 1 million d'années, oui. Longues.
Et ils ont à survoler le Soleil. Elle s'est complètement asséchée en passant trop près du Soleil parce qu'elle se brûle les ailes, les comètes, parfois. Elles sont desséchées. Après, vous avez l'autre réservoir. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle un ceinture de Kuiper. C'est là où il y a Pluton. Hein. Pluton est un objet de Kuiper. Pluton est un astéroïde. Alors là, c'est là où la frontière astéroïde...
Le viré du système. On l'a viré. En plus, il a une orbite hors du champ de l'écliptique. Enfin, il ne fait rien comme tout le monde.
Oui, puis l'orbite n'est pas nettoyée. C'est surtout ça le paramètre.
Ah, oui, hein.
L'orbite n'est pas nettoyée. Donc, il n'a pas le qualificatif de planète, mais de planète naine, comme Cérès ou Vesta. Il n'y a pas beaucoup de planètes naines, il y en a 4 ou 5. Mais après, vous avez beaucoup, beaucoup d'objets dans la ceinture de Kuiper. On en a dénombré un millier. Ce n'est pas beaucoup, mais ils sont tellement loin qu'ils sont difficiles à voir. Et certains sont gros. Pluton, c'est gros. Hein, c'est gros comme Mercure. Donc, depuis ce réservoir-là, avec les perturbations, il y en a qui tombent vers chez nous et ça crée des comètes, plutôt dans le plan de l'écliptique, parce qu'on parle de ceinture. Ça veut dire que ce n'est pas en volume, c'est à plat.
Oui. Hein,
le terme ceinture montre que c'est à plat. Et donc, il y a beaucoup de comètes qui viennent et qui ils sont dans le plan. Et après, Jupiter intervient et ça vous fait la famille de Jupiter.
Voilà. D'accord. Alors, je vous propose, pour que donner relief un petit peu à cette extraordinaire odyssée qui fait que maintenant, cet engin se retrouve là-bas. Il est lancé par une fusée Ariane. Donc, à quelle date exacte est-ce que vous vous en souvenez?
En mars 2004. Une fusée Ariane 5, la nuit. Alors, il se trouve que la fusée Ariane 5 de l'époque, qui n'est pas très différente de celle d'aujourd'hui, n'est pas assez puissante pour nous amener directement sur la bonne trajectoire.
Oui.
Pourquoi? Parce que Rosetta fait 3 tonnes. Ce n'est pas un petit satellite.
Oui.
Et on veut l'envoyer très loin.
Oui.
Beaucoup plus loin que les satellites de télécom qui peuvent faire 5 tonnes, 6 tonnes. Là, on sort de la gravité terrestre, donc il faut plus d'énergie. On ne peut pas y aller directement. Ce n'est pas possible. Donc, on est obligé de faire des tours autour du Soleil. Et à chaque tour, on fait des survols, des assistances gravitationnelles de la Terre ou de Mars. Et on prend un peu de vitesse à la Terre. Hein ? Vous avez vu ça ? On pique de la vitesse à la Terre et on la récupère. Rien ne se crée, rien ne se perd. Et c'est la sonde qui récupère la vitesse. Donc à chaque tour, on va un peu plus loin jusqu'à faire le tour final qui nous a amené en 2011 à atteindre pratiquement l'orbite de Jupiter, à se mettre en hibernation parce qu'on était trop loin.
Oui.
Pas assez d'énergie pour tenir, donc
faut
on a tout
éteindre,
hiberné,
là.
On a tout éteint, sauf une horloge qui faisait tic-tac,
oui, ben oui.
Et 31 mois plus tard, l'horloge a sonné et a réveillé la sonde en janvier 2014.
J'adore, moi, le fait qu'on joue de la balance gravitationnelle, c'est une sorte d'accélération, qu'on en profite, évidemment, beaucoup de missions spatiales ont utilisé ce procédé.
On peut faire beaucoup de choses avec l'assistance gravitationnelle, on peut dévier, on peut accélérer, on peut freiner,
voilà,
il y a toute une panoplie d'activités, c'est pratique, ça coûte pas grand-chose.
Oui.
C'est ça qui est bien.
Voilà, c'est gratis Prodeo d'une certaine manière.
Voilà,
hein.
Voilà.
On n'est pas obligé.
Il faut bien calculer quand même.
Il faut bien calculer.
Ça demande derrière, il y a quand même des ajustements extrêmement fins des trajectoires et des calculs extrêmement précis de la part de nombreux ingénieurs qui font de la mécanique spatiale, comme on dit, et qui prennent en compte tout un tas d'influences diverses et variées.
Mais pour compléter sur ce sujet, il y a des anomalies. C'est-à-dire que parfois, par rapport au calcul dont parle Michel, on s'aperçoit que la réalité est différente. L'assistance gravitationnelle ne s'est pas comportée à 100% prévue. Et ces anomalies ne sont pas comprises. On est peut-être dans un domaine de la physique fondamentale, des effets relativistes, et les gens de physique fondamentale souhaiteraient pouvoir faire des tests pour essayer de comprendre cela. Parce qu'un coup, c'est bon, un coup, c'est pas bon. Un peu comme l'effet pionnier, vous savez, cet effet qui s'écarte des lois de Newton très très loin du système solaire. Là, on sait que c'est un artefact. Hein. Aujourd'hui, ça y est, la messe est dite, il n'y a pas un effet pionnier particulier, il y a un artefact qui est le fait que le RTG rayonne sur l'arrière de l'antenne. Bon, tout ça est compris, mais néanmoins, je crois que quand on a survolé Mars avec Rosetta, on a eu un tout petit écart à la valeur théorique et qui n'est pas compris.
Alors je reviens donc à ce juin 2011 où on arrête les choses et on laisse plus qu'une pendule battre le temps pour le moment du réallumage qui va se faire le 20 janvier 2014. Hein, c'est l'horloge interne qui donc va réveiller l'ensemble du gros appareil qui, je le rappelle encore une fois, fait 3 tonnes avec donc l'orbiteur complet et qui est alimenté par des panneaux solaires, là encore.
Hein. 32 mètres, les panneaux solaires.
Oui, ils sont grands. Bien sûr. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors, pof, on rallume tout et on commence à se dire, nous sommes, je le répète, le 20 janvier 14.
Alors, à partir de là, on va rapidement être assez près de la comète. Mmh. 9 millions de kilomètres, ce n'est pas beaucoup. Hein.
Oui.
On est à 150 millions du Soleil, nous.
Oui.
Alors,
9
millions, c'est rien. Et on a par contre un problème, c'est qu'on va à peu près 3000 km/h trop vite. C'était prévu, hein. C'était prévu. Mais donc, il faut freiner. Et donc, on va se rapprocher et petit à petit, on va donner des coups de frein pour d'abord parce qu'on ne sait pas où est la comète précisément.
Oui.
Donc on fait de la navigation optique relative, la caméra de bord repère où est la comète et on va dessus. Vous ne pouvez pas le faire depuis la Terre, ça. Vous êtes obligé de le faire à bord avec la caméra pour dire le noyau, il est là.
C'est ça. Et là, vous avez là, c'est quasi in situ, quoi, pratiquement. Hein, enfin, et très courte distance.
C'est assez innovant. Hein. C'est pas fait dans toutes les missions spatiales, ça. On le fait dans quelques... La navigation optique et sur Mars, on le fait jamais, par exemple. On n'a pas besoin de le faire. Mais là, là il est absolument nécessaire de le faire parce que les comètes ont, ont une activité, donc des forces non gravitationnelles. Donc, vous ne pouvez pas prédire exactement où est le noyau. En plus, il est caché derrière la coma. Vous ne le voyez pas. Et donc, on a freiné. Et pratiquement au tout début de l'été, on était...
Le 6 août, hein, la date.
Alors attendez, avant le 6 août, il a fallu se rapprocher. Et là, on a fait quelque chose d'assez étonnant. Enfin, il y a eu, on a un petit peu inventé des trajectoires bizarres. On a fait des spirales triangulaires. Ça, on n'avait jamais vu ça dans le spatial. C'est-à-dire qu'on faisait des...
Des cercles carrés, quoi.
Des triangles, mais en spirale, c'est-à-dire en se rapprochant.
D'accord.
Et pourquoi on faisait ça? Parce que, avec cette fameuse caméra... On repérait au bout d'un côté du triangle, on repérait si les lois de Newton étaient respectées. Et si les lois de Newton étaient respectées, là, comme la comète était plus proche, la comète devait nous attirer. Donc l'écart par rapport à une droite était la mesure de la masse. Donc on a mesuré la masse de la comète comme ça. Et ça s'est fait très très bien. Et on a mesuré, la masse fait 10 milliards de tonnes. Vous allez me dire c'est énorme, moi je vous dirais c'est très peu. Parce qu'en termes de gravité, c'est peanuts.
Oui, évidemment.
Rien du tout.
Bien sûr.
C'est rien du tout.
Le champ de gravité est extraordinairement faible.
Le filet qui fait 100 kg va peser. Alors, on a recalculé plusieurs fois, mais quelques grammes. 1 à 5 grammes.
Oui, c'est quoi? C'est 500 ou 50 000, je ne me souviens plus dans ces chiffres astronomiques, la pesanteur terrestre. Hein, c'est
50 000 fois moins
que la
pesanteur. Absolument.
Hein, c'est rien du tout. Quoi.
Alors, on a fait ça.
Talon,
et après...
vous sautez à 3 km de haut, c'est minimum.
Voilà. Et après, on s'est mis en orbite. On savait qu'on devait être gravitationnellement lié à 30 km. Ben, ça a été pile poil. C'est-à-dire que les calculs étaient bons. On s'est mis à 30 km et on était gravitationnellement lié. Alors là, ce qui est amusant, c'est que d'habitude, les satellites, ça va très vite. Là, on se promène. Rosetta se promène à la vitesse d'un marcheur ou pas. Il met 3 semaines à faire un tour autour de la comète. Pendant que la comète a fait 25 tours autour d'elle-même, puisqu'elle tourne en 12 heures et 20 minutes, elle, sur elle-même.
Elle a une rotation
donc,
rapide.
On est très très lent, tout est très lent et tout est calme, reposé. Le tout à 55 000 km/h par rapport au Soleil, donc est relatif. Hein.
En vitesse relative, oui.
En vitesse relative. Relative, bien sûr. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, alors donc je vous propose, Michel Zizot, de nous dire. Rosetta, quid Rosetta, la pierre de Rosette, Champollion, évidemment, c'est ce qui a permis de décrypter les hiéroglyphes.
Oui, le nom.
La pierre de Rosette, la belle pierre noire que les Anglais nous ont. Enfin bref, arrêtons de dire de la perfide Albion. Donc voilà cette pierre qui a permis, puisqu'il y avait un peu de zinc dedans.
Elle est toujours exposée au British Museum, à ma connaissance.
Oui, c'est vrai.
Les scientifiques ont mis, mettent à juste titre beaucoup d'espoir dans cette mission qui est quand même extrêmement complexe. Il y a plus de 20 instruments qui se partagent entre l'atterrisseur et l'orbiteur, pour simplifier. Du fait même que ces objets soient des objets extrêmement primitifs par rapport à l'histoire du système solaire, on espère que l'on va comprendre beaucoup de choses sur la formation du système solaire. Ça, c'est vraiment de l'astronomie, de la planétologie. On espère qu'on va comprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'eau et l'histoire de la matière organique dans l'espace, parce qu'on sait que ce sont des objets qui sont particulièrement riches. Et donc, c'est ce décryptage de choses qui sont jusqu'à présent extrêmement inconnues, qui ont conduit l'Assemblée d'ESA, donc l'Agence spatiale européenne et les scientifiques, à donner le nom de Rosetta en hommage à la pierre de Rosette. Alors après, c'est décliné tout un tas de choses liées à ce premier nom qui fait référence à cette découverte des hiéroglyphes égyptiens qui était incompréhensible jusqu'à Champollion.
Oui.
Et donc après, Philae est devenu naturellement, et maintenant Agilchia.
Oui, parce que Philae, c'est moins connu, c'est aussi une espèce de pierre de Rosette. C'est-à-dire que c'est une obélisque sur lequel il y avait en plusieurs langues. Donc ça a aidé aussi.
C'est ça. Voilà. Et là encore, c'est un peu compliqué puisqu'elle est entre les deux cataractes du Nil. Donc elle a été donc évidemment sous l'eau. On a déplacé sur une île adjacente ou prochaine. C'est en particulier cet obélisque et tous les temples qui étaient là-dessus. Et donc, mais le problème va se poser d'ailleurs à nouveau pour la désignation du lieu, évidemment, d'atterrissage.
Moi, j'aurais bien aimé qu'on l'appelle tout simplement Champollion. Ça me paraissait une évidence que le lieu devait s'appeler Champollion. Le concours a eu lieu.
Oui.
Et simplement, l'ESA, pour une raison que je ne comprends pas bien, a refusé que ça soit le nom d'une personne, y compris du 19e siècle. 19e ?
Oui. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr.
Pour des histoires d'ayant droit. Enfin bon, donc passons là-dessus.
Oui, mais ça change.
Pour moi, c'était une évidence que ce site devait s'appeler Champollion.
Oui, voilà. Mais vous vous souvenez qu'avant, en particulier pour les sites lunaires, quand le système soviétique existait, les soviétiques à tout craint, essayaient de mettre le nom d'un académicien qui, depuis, est parti plus loin que la plus lointaine des comètes. Hein. Aussi donc personnalisé. Là, il y a une espèce d'homogénéité pour défendre la chose, comme quand on a donné le nom de héroïne shakespearienne à un certain nombre de corps de l'espace.
Là, c'était cohérent. Le site Aguilquia, qui est une des îles sur le Nil.
Voilà
on est dans la même région.
C'est l'île sur laquelle on a mis justement les restes du temple qui ont été noyés plus tard.
Qui sont bon,
cette dénomination, c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement, très personnalisé. C'est pour que les gens puissent s'approprier les choses.
Et ce n'est pas officiel, hein. Ça ne dépend pas de l'Union astronomique internationale.
Ah, il faut qu'il l'accepte.
Je pense qu'ils vont l'accepter, mais ça ne relève pas d'eux. Alors que pour nommer, par exemple, un canyon sur Mars, ça relève de l'Union astronomique internationale.
Oui,
pour
oui,
nommer
oui,
une
oui,
comète
oui,
ou un astéroïde,
oui.
ça relève de.
Bien sûr.
Mais par contre, pour tout ce qui est local, notamment quand les Américains se posent sur Mars, ils nomment les cailloux. Ça ne remonte pas à l'UAI pour est-ce que je peux nommer mon caillou comme ça ? Ils le font, point. Et puis c'est tout. Et après, tout le monde se souvient que le caillou en haut à gauche, il s'appelle Adirondack.
France Culture, Continent Science.
Stéphane Deligeorges.
Est-ce que ça va ?
Et bien voilà, passé malheureusement le mi-temps de notre orbitation à quelques milliers de millions, de millions plutôt kilomètres de la planète bleue. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'abord de regarder l'orbiteur et puis d'arriver assez rapidement à cette chose qui va aller carrément se visser sur la comète. Mmh. Alors... immédiatement, quelles sont donc les questions principales et donc qui sont apportées par l'orbiteur, parce que lui va continuer à travailler. On va voir après quel va être le sort malheureux de Philae. Mais qu'est-ce qu'il cherche d'abord? Quelles sont les questions les plus importantes pour un astrophysicien comme vous, Francis?
Alors, on l'a déjà un peu dit, mais ce qui nous intéresse. Fondamentalement, c'est de connaître la composition de ce matériau cométaire qui est primordial et qui probablement n'a pas évolué depuis la formation du système solaire, etc., il y a 4,6 milliards d'années. Donc, pour le connaître à partir de l'orbiteur, Philae va beaucoup aider, on va utiliser deux instruments. L'un qui va analyser le gaz, s'appelle Rosina. C'est lui qui nous a dit que la comète puait. Elle sent mauvais, elle sent l'œuf pourri, elle sent l'ammoniaque, elle a des odeurs terribles.
Ça me rappelle des petits cours de chimie, de labo.
Néanmoins, la molécule principale, c'est bien H2O, puis CO2, et après vous avez des molécules un peu odoriférantes. Et l'autre instrument, son pendant pour la partie solide, c'est Cosima. Lui, il a une toute petite cible de 4 cm carrés et les grains se posent dessus délicatement. Et dès qu'on en repère un, on va tirer au canon à ion dessus pour faire son analyse en spectrométrie de masse. Donc on a une analyse in situ des grains collectés à 10-20 km du noyau. Et ça, c'est très important. En fait, Philae va faire la même chose à partir du matériau prélevé avec la foreuse qui va rentrer dans un spectromètre de masse qu'on appelle COSAC. Et là, la technique est un peu différente. On le met dans un four, on chauffe jusqu'à 600 degrés. Et tout ce qui veut bien se volatiliser, on l'analyse en spectrométrie de masse et chromatographie en phase gazeuse. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de la science de Rosetta. C'est la composition de ce matériau. Et après, encore une fois, il y a 21 instruments. Donc on ne va peut-être pas les détailler.
Bien sûr, non.
C'est ça le cœur.
J'ai ne serait-ce que la liste des instruments de Philae, ils sont aussi très très nombreux. Combien de d'ailleurs, ça me fait penser à là, il y a une question de sociologie aussi des spécialités et du personnel considéré. Il y a combien d'astrophysiciens qui ont été mobilisés par ça et aussi des ingénieurs extrêmement spécialisés qui ont écouté les demandes des scientifiques.
Alors,
ça fait beaucoup de monde quand même.
Européenne, répartie dans un grand nombre de pays européens, donc il faut faire le décompte. Bon. On n'est pas un prêt, mais c'est environ 300. Quoi.
C'est ça.
Si on inclut scientifiques et ingénieurs, opérateurs pour les opérations, etc., etc.
Mais actuellement, parce que dans la fabrication même de l'instrument, des instruments, dans la conception et la construction des instruments, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués, puis après il a fallu les fabriquer avec des industriels, etc. Donc c'est quelque chose qui est à la fois un ensemble de technologies, de connaissances. Je pense que c'est pratiquement indénombrable.
Oui,
actuellement, il y a effectivement, ce que dit Lisa, Francis, il y a 300 personnes qui sont, l'ordre de grandeur, qui sont vraiment mobilisées là-dessus.
Et pour la France, on est à peu près 80 scientifiques et autant d'ingénieurs à peu près.
Alors évidemment, il y a une situation de multiplex où tout le monde va échanger les données quand elles vont arriver ou quand elles arrivent. Évidemment, il y a Darmstadt, il y a Toulouse. Et puis, je suppose que le centre du CNES à Paris va organiser, mais on en dira peut-être un petit mot, puisqu'il y a une activité aussi à la Villette. Il faudra ne pas oublier de le dire. Et de rappeler aussi l'ouvrage que vous avez publié, Francis Roca. Alors, qui veut bien se charger ? Alors, d'abord, de trouver un consensus, parce que quand on regarde cette photo, d'ailleurs, on finit par la trouver très belle. Elle est très belle, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est grisé, c'est petite. Elle n'est pas montueuse, mais bon, elle est un peu fragmentée sur sa surface, elle est irrégulière.
Ah oui, pour nous, c'est un cauchemar.
Là, ça, c'est pas une bille agate tranquille.
C'est pas du tout une comète
donc,
sympathique.
Donc, ça a discuté, je suppose, sévèrement entre vous pour trouver, par consensus, l'endroit où
ça
elle
a été
va
compliqué.
Être
posée. Deux week-ends ont été nécessaires. Le dernier, c'était mi-septembre. Avec les images correspondantes nous donnant les caractéristiques de ces sites. On en a eu 10 au départ, puis 5, et ensuite on a choisi un plus un site de secours. Les critères, c'est d'abord la planéité du site, mais aucun n'a été à 100% valable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va se poser le 12 novembre à 17h, on a déjà une chance sur 5 de rater. Parce que sur le site, et compte tenu de l'incertitude de la position de l'endroit où on va se poser, on a des falaises et on a des gros rochers.
Oui.
Quand je dis gros, c'est 1, 3, 5, 10 mètres, 15 mètres. Des énormes pavés qui traînent par-ci, par-là. Donc, tout ça intégré fait qu'il y a environ un petit 20% de la surface qui ne nous va pas du tout. On fait comme on peut.
Oui.
Voilà. Premier critère, c'est la planéité. Deuxième critère, c'est l'ensoleillement. On veut beaucoup de soleil, mais pas 100%. Donc, on a choisi du 70%. Voilà, c'est étudié pour. Après, il faut que la trajectoire soit compatible. On aurait rêvé se poser au niveau du cou. Là où on avait le corps, la tête, on voyait tout, c'était parfait. Et puis, les gens des trajectoires nous ont dit, ça, c'est interdit. Vous n'irez jamais là parce qu'on n'est pas capable de mesurer le champ de gravité là. C'est trop compliqué. il y a une montagne à droite, une montagne à gauche, le champ de gravité est inconnu. Donc le site est interdit. Voilà, donc on a tous ces critères et après il faut que la science puisse se faire correctement. Je pense notamment au radar de sondage qui est français, CANSERT. Lui a besoin d'une géométrie pour passer à travers le noyau. Et donc suivant les sites où nous nous trouvions et suivant la position de Rosetta qui va se mettre en stand-by pour les télécommunications, eh bien certains sites étaient meilleurs que d'autres. Donc notre site à Gilkia, ex-J, très bien. Il est très bien.
Il a l'air un peu plan quand même. Hein, quand oui. On voit comme ça. Il n'est peut-être pas franchement plan, mais on
a vu de loin.
On a fait tout ce qu'on a pu pour prendre un site plan. Mais évidemment, si on pouvait se poser dessous, dessous, c'était parfait. C'était très, très plan. Mais c'est totalement impossible parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc bon, déjà, on n'y arrive pas.
En tout cas, à un moment, et puisque de toute façon, il faut à peu près 30 minutes de communication, aller au retour, soit pour envoyer un ordre, soit pour recevoir des informations. Donc, évidemment, il a été décidé, puisqu'on ne peut pas mener ça à la baguette tout de suite, du temps nécessaire par cette distance d'espace. Donc, l'atterrissage va être selon une procédure automatisée. Pof, voilà. On va lui dire, allez, tu commences.
Actuellement, ça fait déjà plusieurs jours que l'on tourne sur notre orbite d'environ 30 km, lentement, et on va envoyer la dernière télécommande avec les derniers ajustements compte tenu de la position exacte. C'est du millimétré tout ça, hein. C'est à la seconde, c'est au centimètre, etc. Sinon, ça risque de rater. Et ensuite, tout va être automatique. C'est-à-dire que Rosetta va brusquement foncer vers la comète, et assez rapidement larguer filet. Et Rosetta va à nouveau de changer de trajectoire pour se mettre loin de la comète en position de propice au télécom. Et nous, on va descendre comme une pierre. En fait, sous une gravité extrêmement faible. En fait, on est largué à pratiquement 3 km/h et on se pose à 3 km/h et demi.
Oui.
Vous voyez, on n'a pas beaucoup accéléré.
Oui.
Et le tout en 7 heures. Et là, rien, on ne peut rien faire. Tout est automatique, on ne touche à rien, on ne peut pas toucher à quelque chose. La seule chose qu'on essaye de stabiliser, c'est l'orientation de Philae pour qu'il ait toujours ses pieds vers le bas. Ça a l'air idiot, mais il vaut mieux avoir les pieds vers le bas pour vous poser sur les pieds. Sinon, vous posez mal et vous n'allez pas vous ancrer. Parce que l'atterrissage, c'est vraiment ce qui nous angoisse le plus. Là, il faut ne pas rebondir.
Oui.
Donc, on a un système anti-rebond.
Oui.
Et donc, on va...
Et il s'amarrait, rapidos.
Envoyer les harpons, deux harpons, au cas où il y en a un qui ne marche pas. Et puis, on va tendre les harpons. Il y a des câbles qui se tendent. On va mesurer les tours pour voir si on est bien ancré. Mais on peut aussi être enfoncé. Ça c'est totalement...
Oui, enfoncé dans la poussière, c'est
enfoncé
ça.
Enfoncé dans ce matériau mou, fragile,
c'est ça.
Dont on ne connaît pas la dureté. On peut se retrouver un mètre sous terre. Et le critère important, c'est est-ce que Philae communique depuis la surface. S'il communique depuis la surface, déjà, on peut se dire, bon, ça se présente plutôt bien. Après, 2 heures après, on aura l'image. Et soit on a une image où on voit la surface, on pourra dire qu'on n'est pas complètement enfoncé. On est posé, pas complètement enfoncé. Si l'image est toute noire, on va dire qu'on est posé, complètement enfoncé. Voilà, mais on pourra bricoler la science. Hein. On pourra, ça sera pas nominal, comme on dit dans notre jargon. On pourra envoyer des ordres pour s'adapter à cette situation complètement imprévisible, d'être par exemple un peu trop enfoncé dans le sol.
Alors malheureusement, parce qu'on aurait pu discuter, moi ça m'intéresse beaucoup, l'espèce de petit forêt là, qui va tourner, qui s'appelle d'ailleurs Sésame, hein, je crois.
Non, SD2.
SD2, ah bon, c'est toujours... Alors, c'est très difficile.
SD2, d'accord. C'est bon. Moins poétique.
Eh oui, Sésame, c'est joli pour aller récréer une petite vrille. Bon, enfin, il est... En tout cas, on est au bord, là, nous, de franchir l'orbite de cette émission, où il faut qu'on s'arrête. Bref, nous voilà avec nos 3 questions. Je vais commencer par les vôtres, l'exobiologiste de service à cette émission. Donc, évidemment, vous l'avez déjà dit un petit peu, mais c'est la possibilité de trouver des molécules dites organiques. Hein. C'est grosso modo une des premières curiosités. Hein.
Alors, c'est bon. On sait qu'il y a des molécules organiques dans la coma des comètes, puisqu'on en a déjà trouvé, on en a vu. On ne comprend pas qu'elles soient sous cette forme-là. Donc, on sait qu'il y a un effet, par exemple, des rayons d'ultraviolet du Soleil lorsque ces molécules sont vaporisées en même temps que sont larguées l'eau et la glace, etc. Donc là, on voit un certain nombre de choses. Et donc, on aura avec d'une part Kozak, d'autre part avec Cosima, avec Rosina, d'autre part, on aura une vision de l'évolution de quelques molécules entre leur situation à l'intérieur du corps et le moment où elles sont relarguées dans l'espace interplanétaire. Ça va nous donner, ça va enrichir notre connaissance. On va probablement trouver, j'espère, de nouvelles molécules. Ça, c'est... Actuellement, on connaît à peu près 150 molécules interplanétaires ou interstellaires. J'espère qu'on va en trouver beaucoup d'autres à cette occasion-là.
On en connaît à peu près 30 sur les comètes aujourd'hui.
Donc, ça va, on va vraiment faire grossir le système. Et après, ça ne nous lèvera pas l'inconnu de base. Ce sont des choses qui, probablement, sous forme, quantité ou une autre, arrivent sur Terre. D'accord. Une fois qu'elles sont sur Terre, on ne sait pas du tout à quoi ça sert.
Oui.
Parce qu'elles se mélangent avec d'autres molécules qui peuvent se former. Alors, dans du Miller-Urey, l'expérience de base revisitée, à partir des composants des gaz de
celui qui a fait la soupe prébiotique.
La soupe prébiotique, même si la recette n'était peut-être pas la bonne, celle qu'il a utilisée. Ouais. Mais le principe est le même, avec ce qui se passe au fond des océans, ce qui se passe dans l'atmosphère moyenne avec les orages et ce qui se passe dans la très haute atmosphère sous l'effet des ultraviolets du Soleil.
D'accord. Alors pour le temps imparti, je vais résumer moi et je vais vous laisser répondre très rapidement. Mais pour plus d'informations, on renverra à votre ouvrage, Francis Rocard. Dans la formation du système solaire et en particulier dans la formation des planètes, on va répétant quand on regarde un petit peu les livres de vulgarisation qu'à un moment, c'est cette matière microscopique s'est un peu agglutinée et qu'on supposait la former ce qu'on appelle donc cette toute petite brique de base que l'on désigne par planétissimo. Et il y a la grande question de savoir comment se sont agglutinées ces poussières pour fabriquer ces planétissimaux et aussi comment ces planétissimaux ont fini par s'agréger eux-mêmes pour former les planètes du système solaire. Est-ce que c'est une des grandes questions ?
Oui, mais c'est vrai qu'on a une difficulté. Pour résumer ce que vous venez de dire, on a une difficulté pour faire croître les planétésimaux jusqu'aux planètes.
C'est ça.
Voilà, ça c'est clair. Je viens de redire ce que vous venez de dire. C'est pas les comètes qui vont nous dire ça. Nous, on est plutôt dans la chimie, là.
Oui.
Plutôt que dans la physique de l'agglomération. L'intérieur de la comète est intéressante. Si on a une comète qui est très homogène, et c'est le radar CANSERT qui va nous donner l'information, on pourra dire que les comètes, c'est des petits grains qui se sont collés et tout ça, calmement. Si par contre on a des gros blocs, on pourra dire qu'il y a eu des violents impacts, et puis tout ça s'est brisé, s'est réaggloméré. Et on a des blocs, rubble pie en anglais. Et donc c'est pour ça qu'on veut connaître l'intérieur de la comète aussi. C'est très important.
Oui.
Mais après, c'est la chimie, c'est ce que disait Michel. C'est la chimie du carbone, c'est la chimie de l'eau, c'est l'origine de l'eau et du carbone sur Terre.
Bon, ben voilà, on va dire qu'on a à peu près fait le tour. En tout cas, nous avons fait les prolégomènes à la semaine concentrée sur Rosetta. S'il vous plaît, Francis Rocard, l'ouvrage, le titre de votre ouvrage, on va mettre sur le site.
Quelle est la véritable histoire du système solaire, écrit avec Florence Chiavassa aux éditions Le Pommier.
Le Pommier, voilà, les petites pommes. Et vous serez où?
Je suis à la Cité des Sciences. Vais animer toute l'après-midi. Depuis 15h30, début de l'événement, jusqu'à 19h-20h. Et on espère la première image entre 18 et 19h.
Aïe, aïe, aïe. Et vous serez où?
Eh bien, moi, je ferai la même chose, mais au Musée de l'air et de l'espace au Bourget.
Alors, et vous, là, on pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde, non?
Alors, pour Huygens, on avait 2-3 000 personnes.
Oui.
Là, on pense qu'on va avoir à peu près l'équivalent. Donc, d'accord. Surtout dans le grand hall de la cité, qui est grand. Ça sera ouvert au public et gratuit, donc en fonction de la taille du hall. Donc 2-3 000 personnes, ça peut rentrer.
Vous comprenez cet engouement?
Oui. Alors il y a un engouement certain et il y a une vingtaine de sites en France qui vont retransmettre cette émission en direct, des associations, le planétarium de Vaux-en-Velin, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui en France vont faire des événements autour de cet instant qui est un instant d'émotion intense parce que c'est vraiment une première pour l'Europe, pour le monde en général.
Et d'une certaine manière, les instruments sont tellement sophistiqués que c'est presque, j'ose dire, vous n'allez pas être d'accord, mais c'est presque aussi bien que si on avait ramené des petits morceaux. Cela dit, allez, on va quand même parler de la dernière énigme, c'est de la présence de l'eau sur Terre. Donc, il y a une théorie qui commence à prévaloir, je suppose, vous allez me corriger tout de suite, Francis Rocard, vis-à-vis de ce problème, c'est qu'on constate que notre planète, la planète bleue, a le trois quarts de sa surface qui est formée par les océans. Et on se demande, d'où vient toute cette eau, puisque de toute façon, à l'origine, c'était une tellurique vraiment forte et avec très peu d'eau. Et donc,
Début, la terre avait de l'eau, mais que la terre a perdu son eau.
A perdu son eau. Et ensuite, comment donc l'eau a pu revenir? Est-ce qu'il y aurait eu une espèce d'avalanche permanente de météores?
Ah, la réponse est oui. Non, la question, c'est... on sait que ça a bombardé beaucoup, et dans les premières centaines de millions d'années, sur une Terre qui est formée, qui était encore très chaude, la Lune a impacté la Terre.
Après l'épisode de la Lune.
Il y a eu un impact 30 millions d'années après la formation de la Terre.
Oui. Donc le gros choc, la Lune a complètement soufflé
là-haut. Oui. Et après, l'apport est venu de l'extérieur par les comètes et peut-être les astéroïdes. Et c'est par des mesures un peu compliquées, ce qu'on appelle le désurage, c'est-à-dire le rapport de deutérium sur hydrogène, sur l'eau, qu'on conforte cette idée que l'eau terrestre vient d'un apport extérieur, probablement pour une part cométaire, mais aussi astéroïdale.
Alors comment est-ce qu'on fait le distinguo entre justement le deutérium, qui est l'isotope de l'hydrogène?
On mesure la masse, bien sûr, mais on fait le rapport.
Mais donc, est-ce que ça va être fait in situ ou est-ce que ça va
se faire
comment?
Ça se fait avec Rosina sur le gaz. On va le faire sur le grain, on va le faire sur le matériau sur COSAC. Enfin, on va le faire à diverses reprises et voir d'ailleurs si ce désurage est bien homogène sur toutes ces expériences.
Ça peut se faire aussi à distance. Ça peut se faire aussi à distance par des mesures en infrarouge, par exemple. Pour mesurer, parce que ça n'a pas la même signature dans l'infrarouge. Mais il y a une remarque quand même, c'est qu'on a l'impression que sur Terre, il y a beaucoup d'eau.
Oui.
Alors sur Terre, il y a beaucoup d'eau, mais dans la Terre, il y en a très peu. On est à moins de 0,6%, ce qui fait qu'on a une quantité d'eau sur Terre qui est extrêmement limitée, très faible, contrairement à ce qu'on croit. Quand on prend des choses comme des objets comme Europe, comme Titan, etc., il y a une proportion d'eau beaucoup plus importante, c'est des dizaines de pourcents. Alors que sur Terre, on est à moins de 1% d'eau dans la masse totale. Ce qui est très faible, ce qui en fait un corps qui est sec. Alors, en surface, il n'est pas sec, heureusement pour nous, sinon on ne serait pas là pour en parler.
Oui.
Mais globalement, c'est quand même un corps extrêmement sec.
C'est le mur de glace, hein, en fait, la raison. C'est que dès que l'eau devient glace, elle se comporte comme un caillou. Et donc, dans Europe et autres, tout ça s'agglomère en parcollage. Et donc, on a beaucoup plus d'eau dans les satellites des planètes géantes que sur Terre.
Mais en tout cas, on peut évidemment aussi présumer qu'il a fallu que ces molécules organiques se retrouvent dans un milieu liquide pour pouvoir commencer cette chose qu'on n'a encore toujours pas compris, qui est donc la constitution d'une unité autoréplicante, ce qui est une définition possible de la vie.
La vie a beaucoup de définitions et beaucoup de caractéristiques. Il faut qu'il y ait de l'eau. Là, actuellement, je pense que la plupart des exobiologistes et des gens qui travaillent sur ces origines de la vie sur Terre ou qui cherchent la vie ailleurs dans l'univers sont d'accord pour dire qu'il faut de l'eau liquide. Même si on a démontré que de nombreuses réactions chimiques fondamentales faisaient des briques élémentaires dans de la glace, et notamment dans de la glace agrégée autour de grains, de silicates, etc. Et donc, cette agrégation de ce qu'on appelle de volatiles, donc de petites molécules, sous l'effet des ultraviolets, sous l'effet d'un certain nombre d'autres radiations, est capable de générer des molécules qui nous sont familières sur le plan moins des termes, comme les acides aminés, des acides carboxyliques, des bases, tous les éléments qui font aussi bien la chair que les gènes, pour simplifier.
Alors ça va prendre beaucoup de temps pour analyser les résultats, c'est toujours pareil avec les grandes expériences, soit de physique des hautes énergies par exemple, soit en astrophysique. Ça fait longtemps qu'elle a été lancée, 2004, donc on voit très bien. La semaine précédente, à ce même micro, c'était un projet qui lui va partir en 2020, il s'agit du projet Euclide, somptueux projet aussi, à cette fois à dimension cosmologique. Vous êtes dans une sorte de calme où, comme j'ai envie de vous poser quand même la question suivante. Vous êtes joyeux, vous êtes heureux là. Vous êtes comment? Parce que c'est une entreprise extraordinaire que vous êtes nombreux.
On est excité positivement, je dirais, une espèce d'excitation qui monte pendant encore 48 heures, puisque tout a été fait pour que ça marche et vérifier plutôt mille fois qu'une. Et néanmoins, après 10 ans de croisière, est-ce que l'engin va se comporter conformément à ce que l'on souhaite? Voilà, il y a des incertitudes. On vous l'a dit, la surface n'est pas parfaite. On sait que si on se tombe mal, on n'a pas de chance. Voilà, après, on va croiser les doigts et on va espérer que tout va bien se passer à 17h.
Oui. Et vous êtes, c'est presque la dernière question, vous êtes un peu comme celui qui s'occupe de, du projet Euclide, avec des post-docs qui étaient déjà là à l'origine et qui ont suivi et que vous voyez vieillir d'une certaine manière.
Non, les post-docs, qui, moi j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps parce qu'on s'était réunis, oui. Les post-docs qui vont travailler sur les données Rosetta, ils avaient 3 ans lorsque la décision de lancer Rosetta a été prise. Il faut voir ça. Et donc oui. Nous sommes à 1 jour, 18h39 du largage de Philae par la sonde Rosetta.
Allez, redites-le une fois quand même, allez, ça fait rêver.
Nous sommes à 1 jour, 18h et 18 minutes du largage de Philae par Rosetta.
Mille merci Francis Requin, mille merci Michel Vizeau, c'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité que nous requérons presque pour cette semaine entière consacrée à cet événement astrophysique. Merci aussi, bien sûr, de votre attention et de votre fidélité encore une fois. Brigitte Masson, Dany Journeau, Stéphane Deligerche. Comme vous le savez, Continent Science est balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr.